Bonjour, vous allez écouter maintenant une conférence qui a été donnée le mardi 16 octobre dernier à la paroisse toulousaine du Christ-Roi dans le cadre du cycle Passeur d'hommes. Le frère Emmanuel Perrier, dominicain, en est l'intervenant.
Être libre, un idéal et une conquête pour mieux se diriger. Je vais repartir d'un texte qui nous parle plus directement. Celui de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui, dans son article 4, parle de la liberté. La liberté, est-il dit, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Alors si nous regardons ce qui caractérise cette liberté décrite par la Déclaration, c'est qu'elle consacre la liberté d'un homme, d'un individu, qui est maître dans son royaume. Maître dans son royaume, c'est-à-dire que chez lui, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais que pour vivre en société, il doit accepter des restrictions de sa liberté qui sont imposées par les besoins d'une vie commune. Et donc si je reprends, c'est la définition de la Déclaration, on peut dégager quatre points. Il y a d'abord l'affirmation d'une souveraineté absolue. C'est un pouvoir, la liberté est définie comme un pouvoir, la capacité à, un pouvoir de faire tout. Un pouvoir donc illimité, qui ne connaît pas de bornes, et absolu en ce sens qu'il ne doit dépendre, il est un sanctuaire que rien ne peut toucher, que rien ne peut atteindre de l'extérieur. On ne peut pas le contraindre à rogner sur sa liberté parce qu'il est maître en son royaume. Mais il n'est maître qu'en son royaume, et c'est ce que nous dit les deux autres aspects de cette définition. On peut faire tout à condition que ça ne nuise pas. Donc voilà la limite morale placée sur la liberté. Vous avez le droit de tout faire, sauf si vous commencez à nuire aux autres. Et ce qui va être le point de repère de cette limite, c'est ce que édictera la loi. La loi va être chargée, dans une société donnée, de mettre en place les conditions pour que chacun puisse être maître dans son royaume et qu'il n'empiète pas sur le royaume d'autrui, qu'il ne vienne pas atteindre au royaume d'autrui. Cette définition, elle est représentative de ce que le grand mouvement politique du XVIIIe siècle, initié en Angleterre, ou plus exactement en Grande-Bretagne, qui est une définition libérale de la liberté. Et cette définition, j'en retiens trois aspects. Tout d'abord, c'est une définition politique. C'est-à-dire que la Déclaration des droits de l'homme ne se veut pas une affirmation sur ce que chacun entend par liberté. Vous pouvez, dans votre propre royaume, concevoir la liberté à votre guise. Ce que la Déclaration vous dit, c'est que entre nous, c'est-à-dire dans le champ du politique, la liberté, elle a cette définition que donne la Déclaration. Et donc, la raison pour laquelle on pouvait l'imposer, la raison pour laquelle on a imposé cette définition, c'est que l'on a dit c'est la meilleure définition de la liberté politique possible puisque elle sauvegarde votre liberté de penser la liberté comme vous l'entendez pour vous. Toutes les autres manières de définir la liberté supposent que tout le monde s'accorde sur votre manière de penser la liberté. Alors que celle-ci, elle a l'avantage d'être absolument neutre et simplement de régler les cas de conflit. Mais il y avait un petit inconvénient dans cet argument. Inconvénient qu'on n'a pas vu tout de suite. Enfin, quoique. Mais, en tout cas, inconvénient qui apparaît plus aujourd'hui. C'est que cette définition politique de la liberté, puisqu'elle était politique, elle allait forcément déteindre sur les individus. C'est-à-dire que, à force d'entendre l'essentiel, c'est de ne pas nuire à autrui, eh bien, la majorité des citoyens se sont mis en tête que être libre, c'est ne pas nuire à autrui. Je suis libre à condition de ne pas nuire à autrui. Et tout ce que je fais, je peux le faire, il n'y a aucun problème moral, dès lors que je ne nuis pas à autrui. Et donc, il y a eu un effet de rapatriement de cette définition politique dans la sphère privée, dans ce qui était au départ le lieu où justement il y avait d'autres conceptions de la liberté qui s'imposaient. Deuxième caractéristique de cette définition, elle fait de la liberté un principe qui est de soi illimité. Si, donc, je pouvais faire tout ce que je voulais, eh bien, rien ne me serait interdit. Et c'est ça la définition de la liberté, finalement, qui est retenue ici, c'est rien d'interdit. À ce moment-là, je suis vraiment libre. Et donc, c'est un principe d'illimitation qui est introduit dans le fonctionnement même des sociétés et que, petit à petit, les citoyens vont eux-mêmes intégrer pour eux. L'illimitation, c'est toujours un peu dangereux quand on donne à quelqu'un qui est limité, par définition, un outil qui est un outil qui lui fait croire qu'il n'a pas de limite, qu'il n'a pas de limite. Parce que, et ça la philosophie politique le sait bien, un pouvoir illimité, c'est un pouvoir qui menace fortement d'être dictatorial. Le pouvoir illimité, par exemple, c'est le pouvoir du petit enfant qui aimerait bien pouvoir faire tout ce qu'il veut. Et donc qui fait des caprices. Il n'y a pas de raison particulière pour laquelle il veut telle chose, mais on ne doit pas le contrarier. Donc, une petite tendance au refus de la contrariété qui est inscrite dans cette définition. Troisième caractère, elle façonne l'ordre public sur un critère de moindre mal. On sait que ça va être difficile de vivre ensemble. Et aujourd'hui, Dieu sait si on le sait. On sait que ça va être difficile de vivre ensemble. Et donc, l'objectif, c'est simplement d'empêcher que ça dégénère. De faire en sorte que chacun reste, vous savez, c'est comme dans les stades, où on parque les fans dans des zones bien précises, avec des barrières pour empêcher que ça dégénère. Les empêcher d'aller sur le terrain, les empêcher d'empiéter sur le club de fans d'à côté. Et cette manière de concevoir la liberté fait que ce que l'on regarde, ce à quoi elle nous rend attentif, cette définition, c'est simplement au fait de ne pas nuire. C'est une vision purement négative. On pourrait dire que c'est une vision marquée par la tradition protestante du péché originel, C'est-à-dire, puisque l'homme est de toute façon mauvais, la seule chose qu'on peut en attendre, c'est qu'au moins il ne nuise pas à son prochain. Et si on arrive à ce qu'il ne nuise pas, ça sera déjà beaucoup. Mais le problème, c'est que les sociétés ne sont pas simplement des immeubles avec une copropriété. Les sociétés, il faut qu'elles bâtissent l'immeuble. Il faut qu'elles y habitent. Il faut qu'elles sachent évoluer. Et donc, à ne voir la liberté que simplement comme une comme restreinte par le principe du moindre mal, par l'absence de nuisance, eh bien, on n'aide pas la liberté à se lancer dans des actions positives. Par exemple, faire quelque chose ensemble. On a un ministre de l'Intérieur qui, il y a quelques jours, disait, je ne sais pas dans quelle mesure nous vivons côte à côte, et je ne sais pas dans quelle mesure, d'ici quelque temps, nous ne vivrons pas face à face. Oui, c'est une crainte. Mais c'est peut-être une crainte parce que la liberté qui nous anime, le sens de la liberté qui nous anime depuis plus de 2 siècles, c'est un sens dans lequel on essaye, qui ne pousse pas à construire ensemble quelque chose, à s'associer, à chercher un bien en commun, à partager ce qui nous fait vivre. Le monde dans lequel chacun vit clôturé derrière ses murs, les murs de sa propriété, et fait ce qu'il veut dans ses murs, c'est un monde dans lequel on ne passe plus beaucoup de temps à se parler, sinon de mur entre un mur. Et il y a donc un danger qui est que cette conception politique libérale de la liberté, elle n'alimente pas la vie commune. Elle ne nourrit pas la vie collective. D'où la question, est-ce que il y a une autre manière de concevoir la liberté? Est-ce qu'il ne faut pas chercher des éléments de compréhension plus profond de ce qu'est la liberté? Parce que vous comprenez bien que ce n'est pas simplement une interrogation théorique, mais c'est en train de devenir une interrogation très concrète, puisque nos sociétés sont en train de se déliter. Et le problème n'est plus tant de savoir comment est-ce qu'on maintient l'existant, mais comment est-ce qu'on renouvelle, comment est-ce qu'on rénove un esprit social commun. Et là, il va falloir un peu plus qu'une conception négative, une conception du ne pas nuire de la liberté. Et je voudrais juste d'ailleurs faire passer une petite remarque. Pourquoi est-ce que ce problème ne s'est pas posé plus tôt ? Ça fait 2 siècles quand même pour nous, en tout cas français. 3 ou 3 et demi pour l'Angleterre. Le problème ne s'est pas posé plus tôt? Eh bien, c'est le petit point que je voudrais souligner, c'est que la Déclaration des droits de l'homme, elle est arrivée avec cette définition de la liberté qu'elle a établie au niveau politique, à une époque où toute la population était façonnée par l'Évangile, était façonnée par des mœurs, des coutumes, des manières de penser, des manières de voir, des manières de se comporter avec son voisin, qui étaient, qui avaient été façonnées avec l'Évangile en face, et cette question répétée en permanence, est-ce que ce que je fais est conforme ou non à l'Évangile? C'est-à-dire que c'était des sociétés qui avaient une conception de la liberté beaucoup plus profonde, beaucoup plus riche, beaucoup plus forte, et que ces conceptions, eh bien, évidemment, Si on prenait une définition politique très souple, très limite, très, très légère, eh bien ces sociétés n'avaient pas de problème pour vivre selon ce modèle très souple de liberté commune. Mais le jour où Vous avez une société qui n'entend plus la parole de l'Évangile, qui la remet en question tous les dimanches, mettons. Même si c'est que tous les dimanches. C'est déjà pas mal d'entendre une fois dans la semaine un texte qui tout d'un coup vous ramène face à vous-même et vous dit « Mais est-ce que je n'ai pas commis le mal ? Est-ce que j'ai été attentif à mon prochain et à Dieu ? Est-ce que j'ai contribué à servir les autres ? Est-ce que je n'ai pas fait peser mon pouvoir ? Est-ce que je n'ai pas cherché à prendre l'avantage, un avantage injuste sur quelqu'un ? Etc. » Toutes ces questions-là, c'était des questions qui étaient en permanence secouant la société. Mais le jour où ces questions disparaissent, alors, cette liberté à minima, cette liberté de ne pas nuire, elle n'est plus suffisante à faire tenir la société. Je cite ce texte de Jean-Paul II dans Redemptor Hominis, qui est sa première encyclique. Donc, je crois que c'est 1979. À notre époque, on estime parfois de manière erronée que la liberté est à elle-même sa propre fin, que tout homme est libre quand il s'en sert comme il veut, et qu'il est nécessaire de tendre vers ce but dans la vie des individus comme dans la vie des sociétés. Ce que Jean-Paul II évoque ici, c'est ce modèle des sociétés dites libres, c'est-à-dire des sociétés qui promeuvent la liberté, et ça très bien. Mais quelle liberté ? Quelle liberté ? Est-ce que le but de la société, c'est de promouvoir la liberté ? Ou est-ce que la liberté n'est pas une condition pour vivre en société ? Condition morale, condition intérieure. Alors, je vais maintenant passer à la deuxième partie, une phase plus constructive. Et je voudrais, pour simplifier, présenter ce qu'est la liberté humaine en la ramenant à deux grands aspects. La liberté humaine est à la fois un don et elle est un appel. Elle est un don parce qu'elle fait partie de ce qui constitue la nature humaine. Nous naissons avec cette capacité d'agir librement. Mais il ne suffit pas de naître avec, il ne suffit pas d'avoir reçu le don. Ce don est aussi un appel, une exigence à vivre à la hauteur de ce don, à le développer, à le faire croître et à devenir libre. Et donc, ce sont les deux aspects que je voudrais souligner maintenant. Nous sommes libres en raison de notre nature humaine, mais nous sommes appelés à devenir libres par toute notre vie. Je vais donc repartir pour du premier point, la liberté comme don. Repartir de quelque chose de... On repart à la base, là. On repart aux racines. Aristote définit la liberté comme le fait de disposer de soi. Alors, je traduis ici, en fait, être ce que Aristote dit, c'est être libre, c'est être cause de soi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il caractérisait la liberté par opposition à toutes les réalités naturelles que nous voyons se déplacer dans notre monde et qui sont mues, qui sont portées dans telle ou telle direction, sans aucunement participer au choix de ce vers quoi elles vont. La pierre qui tombe, on ne lui demande pas son avis. Et nous sommes donc face à un monde de réalité corporelle qui obéissent à des lois, qui obéissent à ce qu'elles sont, qui obéissent à ce qu'on leur fait faire. Et précisément, ce qu'on leur demande, c'est d'être parfaitement obéissante à cela, parce que c'est ça qui fait tenir le monde. Et donc la nature nous offre l'exemple de réalités qui sont mues sans se mouvoir elles-mêmes. Et c'est cela que Aristote entend par liberté. Être libre, c'est se mouvoir soi-même. Être le principe de son mouvement. Parce que pour être principe de son mouvement, il faut avoir fixé ce que l'on veut faire, là où on va. Il faut autrement dit s'être fixé une fin, un but. Et il faut que, ayant fixé ce but, on ait les moyens de nous y porter. D'où cette traduction que je propose, être libre, c'est disposer de soi. On retrouve dans la même idée, mais replacée dans un contexte théologique, chrétien, chez Saint Grégoire de Nice. Voici ce que dit Saint Grégoire de Nice. L'âme manifeste son caractère royal par son autonomie et son indépendance, et par ce fait que dans sa conduite, elle est maîtresse de son propre vouloir. De qui ceci est-il le propre, sinon d'un roi ? Et la tradition chrétienne va s'emparer de ce thème de la liberté comme étant une prérogative royale qui montre que l'homme est à l'image de Dieu comme un roi sur lui-même. Il a cette capacité de diriger sa vie. Il n'a pas évidemment la maîtrise du monde entier, mais déjà se diriger soi-même, c'est déjà pas mal, et c'est déjà un gros travail. Ça occupe déjà toute la vie. Et donc, à l'égard de lui-même, à l'égard de ses proches, de ses semblables, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il doit faire, eh bien, il va se comporter comme un roi qui décide de ce qu'il veut faire. Autonomie, indépendance, être maître de son propre vouloir, c'est le propre d'un roi, à l'image de Dieu, Seigneur de toutes choses. Et cette grande tradition chrétienne sur la dignité de l'homme, l'homme digne parce qu'il a cette capacité royale de se diriger lui-même, d'être maître de sa vie, elle va être reprise dans le dernier concile, dans le texte de Gaudium et Spes, Vatican II, numéro 17. La vraie liberté est en l'homme un signe privilégié de l'image divine. Pas exclusif, mais privilégié. Car Dieu a voulu le laisser à son propre conseil pour qu'il puisse de lui-même chercher son Créateur et, s'attachant librement à lui, parvienne à une pleine et bienheureuse perfection. Et vous voyez ici apparaître un second aspect de la liberté, c'est-à-dire que ça n'est pas simplement un privilège, ça n'est pas simplement un pouvoir, ça n'est pas simplement une dignité, mais c'est une dignité qui oblige, c'est une dignité qui est faite pour servir à quelque chose. Et servir à quelque chose, c'est quoi ? C'est chercher Dieu librement. Chercher Dieu librement, s'attacher librement à lui. Dieu ne veut pas que nous allions vers lui en y étant forcés, comme un petit enfant qu'on force à aller faire la bise à sa tata et qui va à reculons. Non, il faut qu'il y ait de la spontanéité à connaître et aimer Dieu. Et pour cela, il faut que l'homme soit maître de ses actes, de sa vie. Et c'est justement le terme de la vie humaine que de parvenir à une béatitude, c'est-à-dire à cet acte libre dans lequel on connaît et on aime Dieu éternellement. C'est le sommet de la liberté. Le sommet de la liberté, c'est un acte éternel, libre de connaissance et d'amour de Dieu. C'est cela la béatitude. Et cet acte éternel, eh bien, nous le préparons par tout ce que nous vivons sur cette terre. Dans tous nos actes libres, nous apprenons à aimer, à chercher Dieu, à l'aimer, en le cherchant et en l'aimant, mais aussi en cherchant, en aidant notre prochain, en le servant et en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Donc la vie, ici-bas, c'est un apprentissage d'un acte libre éternel. On est à l'entraînement, si je puis dire, et on entretient en permanence des actes, on essaye d'améliorer notre liberté, de l'approfondir, pour que notre face-à-face avec Dieu soit un face-à-face totalement libre, pleinement livré à Dieu, sans réticence, sans regret, sans résistance. Je reviens au don. Dans le don de la liberté, ce qui est à la racine de ce don, c'est l'âme spirituelle qui connaît le bien en tant que telle et qui est attirée par lui. Je m'explique. Ce qui permet la liberté, c'est de pouvoir saisir dans ce qui est en face de nous un bien qui vaut la peine qu'on se déplace pour lui. Et de ce point de vue-là, les animaux, par exemple, ont une certaine liberté dans la mesure où l'animal, par exemple, voit très bien ce qui est pour son avantage, une bonne nourriture, un bon pré pour une vache, elle est heureuse, et au contraire, ce qui peut lui nuire, la venue du prédateur, les intempéries, etc. Et il y a déjà chez l'animal une capacité à se déterminer, à aller vers ou à fuir, en fonction de ce qu'elle perçoit être un bien ou au contraire un danger. Mais l'animal ne voit jamais dans la nourriture que le miam-miam, le manger, ce qui correspond aux besoins de son ventre. L'animal ne voit jamais dans le prédateur que ce qui menace sa vie. L'animal ne voit pas le bien en tant que tel. Il n'a pas la capacité d'ordonner les différentes choses de l'univers en disant celle-ci, elle a telle bonté, elle est bonne de telle manière, et celle-ci, elle a tel défaut, ou elle recèle tel danger. L'homme, au contraire, est face à l'univers comme face à une immensité d'êtres qui l'attire ou le repousse, et dans lesquels, autrement dit, il est capable de saisir le bien de chaque chose. Et de ce fait, l'homme, parce qu'il est un esprit, parce qu'il a une intelligence spirituelle, est capable, et plutôt exactement, il est fait pour le bien en général. Nous sommes, à l'égard de n'importe quel objet, capables de l'évaluer en disant ça c'est bien, ça j'aime moins bien, ça je déteste. Alors que l'animal, il y a ce qui l'intéresse et tout le reste lui est indifférent. Pour nous, en revanche, tout est affaire de bien. Tout est, dans toute chose, nous sommes capables de voir du bien et de voir le bien qu'il recèle. Et ceci, c'est parce que, justement, une âme spirituelle, elle est faite pour le bien dans sa totalité. Elle est faite pour le bien en soi, le bien par essence, qui est Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous avons cette liberté en nous de regarder les choses, d'y trouver un bien et de choisir tel ou tel bien, celui que nous voulons poursuivre. Nous sommes capables, dans notre journée, de traiter des quelques milliers de biens, et tout cela en mettant en place à l'intérieur de notre journée un circuit dans lequel nous faisons les choses les unes après les autres, en fonction de leur importance, en fonction de leur urgence, en fonction de ce qui nous plaît, en fonction de ce dont nous avons besoin, en fonction de ce qui est nécessaire. Et donc, nous faisons, par notre intelligence, en permanence cette mise en ordre des biens qui nous conviennent, des biens auxquels nous avons à répondre. Et ce don, il est de soi, il vient avec notre nature. C'est-à-dire, c'est le fait même d'être une nature spirituelle qui fait que nous sommes libres. On est face aux choses toujours en train de voir en quoi elles sont bonnes. Est-ce qu'elles nous attirent ou est-ce qu'elles nous repoussent? Et par conséquent, on ne peut pas nous retirer cette capacité d'être libre. On ne peut pas nous retirer cette capacité de la volonté à choisir des biens et à voir le bien. Et c'est la raison pour laquelle les régimes totalitaires en font toujours l'expérience. Eh bien, plus ils accentuent leur côté totalitaire, plus il y a une réaction, parce que la nature en nous répugne à ne plus être libre. On passe notre journée à regarder et à dire ça c'est bien. Dans quelle mesure est-ce que c'est bien? Quelle est la place de cette chose dans ma vie? On passe notre journée à ça. Comment voulez-vous le retirer à l'homme? La grande expérience du communisme, pour ce qu'on appelait les dissidents, ce fut justement l'expérience de la liberté. On parlait de Solzhenitsyn, mais je pense aussi à Vaclav Havel. Vaclav Havel a écrit des choses tout à fait remarquables sur justement cette méditation sur ce que c'est qu'être libre, parce que justement il y a, face au pouvoir totalitaire, des espèces de réactions, d'anticorps qui se mettent en place et qui font que l'homme résiste à l'emprise sur lui. Donc, tout ce qui va s'opposer à la liberté, c'est tout ce qui veut empêcher que nous soyons le principe de nos actes. Ce qui veut nous retirer cette capacité à décider, à dire « je veux telle chose ». Et à l'inverse, il y a deux aides qui nous sont apportées. La première, elle est liée à notre nature intellectuelle. Parce que nous sommes des âmes spirituelles, c'est pour cette raison que nous sommes libres. Et parce que nous sommes des âmes spirituelles, eh bien, nous ne nous portons vers un bien que si nous y voyons un bien, que si nous y connaissons que ça c'est bon. Et par conséquent, comme nous n'avons pas une science absolue de tout, nous avons besoin de guides pour nous aider à voir ce qui est bon pour nous. C'est comme en peinture, en musique, en cuisine, en œnologie, en tout ce que vous voulez. Au début, on a des goûts de cochon. C'est-à-dire qu'on ne sait pas distinguer une œuvre d'art d'un tag. Et il nous faut éclairer notre intelligence, c'est-à-dire lui montrer, regarde un peu plus près, essaye de voir ce qui est plus important, pourquoi est-ce qu'il y a ça, pourquoi est-ce qu'il y a telle forme, pourquoi est-ce qu'il y a telle couleur, comment se passe l'harmonie de tout cela, pourquoi est-ce que le sentiment que tu éprouves face à une belle œuvre est plus fort que face à un rien, eh bien, on éduque son sens de la beauté. Il en va de même pour notre sens moral, pour notre volonté, et de manière générale pour tous les biens. Nous avons besoin d'être guidés, d'acquérir des points de repère qui nous disent ça, attention, ça va mal finir, ça, attention, c'est mal. C'est ce que l'on appelle la loi. La loi, c'est ce qui vient éclairer notre intelligence sur la bonté ou la malice de tel ou tel acte. Et cette loi, elle prend diverses formes. Il y a d'abord la loi divine, la loi éternelle de Dieu, la loi par laquelle le monde est fait. Il y a aussi la loi que Dieu vient révéler, évidemment le décalogue, évidemment tous les textes de la Bible dans lesquels on apprend petit à petit à affiner notre sens moral, en voyant ce qui est arrivé à des personnes qui ont fait ce que Dieu a mis en exemple, a montré en exemple. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la loi naturelle. Il y a des choses pour lesquelles l'homme est fait, pour lesquelles il n'est pas fait. Par exemple, vivre dans une famille, c'est de droit naturel. C'est-à-dire que si vous commencez à faire une société qui n'est plus basée sur la famille, eh bien cette société va s'effondrer. C'est ça ce que dit le droit naturel. Hein ? Le droit naturel, c'est vous pouvez essayer. Si ça vous amuse, essayez une société sans famille constituée. Mais on sait où ça va. Il n'y a peut-être pas besoin d'essayer toutes les bêtises, puisqu'on a justement à la fois l'expérience des siècles et puis ce droit naturel qui nous éclaire. Et puis, il y a aussi les lois de nos sociétés qui sont là aussi pour éclairer notre intelligence sur ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Deuxième aspect, deuxième soutien dans notre vie de liberté, c'est la grâce. La grâce, c'est ce don de Dieu qui va soutenir, affermir et porter tous nos actes vers le but. Le but qui est cette béatitude, un acte d'amour, de connaissance et d'amour éternel de Dieu. Et donc, la grâce, à la fois, elle guide, puisqu'elle nous fait voir que, attention, si tu abaisses tes exigences humaines, si tu rabattes, par exemple, ta conception du bonheur à simplement être heureux en cette vie, eh bien, tu ne vas pas être heureux. Les choses ne vont pas se passer comme tu vas le vouloir. Non, ton bonheur est plus haut que ça. Regarde plus haut. Va plus haut. Et la grâce, non seulement elle éclaire, mais elle fortifie la volonté pour que la volonté arrive à dépasser un certain nombre de limites de l'homme. Je passe maintenant à la deuxième dimension, l'appel. C'est une expérience humaine fondamentale que nous avons besoin d'éducation. Nous naissons avec une liberté, mais avant de maîtriser notre vie, avant de savoir nous guider par nous-mêmes, il va falloir un certain nombre d'années. Et au départ, du reste, nous sommes comme un petit animal, c'est-à-dire que les parents s'occupent non seulement de nous éduquer, mais l'éducation commence par donner le biberon, changer les couches, veiller à ce que l'enfant dorme, donc des activités qui correspondent simplement à des activités corporelles. Mais nous savons aussi que dès le début, la vie de l'âme s'éveille et que l'enfant, en fait, est une espèce d'éponge à spiritualité, d'éponge à tous les signes d'affection, d'attention, de reproche, etc. Il saisit petit à petit le langage, il saisit et il forge petit à petit un regard sur le monde, un regard sur les choses, un regard sur les autres. Et il forge petit à petit son caractère, sa capacité à décider pour lui-même de ce qu'il faut faire, de ce qu'il doit faire, de ce qu'il veut faire. Cette expérience de l'éducation, expérience tout à fait fondamentale de la vie humaine, en fait, c'est une expérience de ce que, si la liberté est un don, elle est aussi un appel. On ne peut pas se comporter librement comme ça à partir de 1 an. C'est pas possible. L'homme est fait pour petit à petit découvrir le monde, s'orienter dans le monde. Il lui faut justement assimiler le monde pour savoir comment lui, il veut conduire sa vie. Et donc, une vie de liberté, c'est une vie dans laquelle la liberté, elle croît, elle s'approfondit. Par exemple, décider qu'un enfant va découvrir par lui-même ce qu'il lui faut, ou ce qu'il a besoin d'apprendre, c'est évidemment l'empêcher de devenir libre. C'est en faire un idiot, c'est-à-dire que c'est en faire quelqu'un qui ne saura pas se gouverner, puisque personne ne lui a jamais transmis le trésor d'expérience humaine que nous transmettons dans l'éducation. Il faut des milliers d'années pour acquérir, pour arriver à ce que nous sommes capables de faire dans nos sociétés. Et on ne va pas demander à un petit enfant de tout redécouvrir en quelques mois ou en quelques années. Donc, il s'agit de croître en liberté. Et dans cette croissance, il y a les éléments que j'ai dit précédemment, à savoir forger un regard sur les choses, une intelligence du réel, où on cherche le bien, et puis apprendre à le vouloir. Mais je voudrais insister ici sur deux dimensions importantes de cet apprentissage de la liberté. Un des grands lieux d'apprentissage de la liberté humaine, ce sont les passions. Parce que nous sommes des espèces de zoos intérieurs, il y a des animaux en nous, il y a de l'animalité en nous, et cette animalité, elle fonctionne avec ses exigences propres. Le ventre a faim à des heures, enfin si on ne lui apprend pas à avoir faim à des heures précises, il aura faim tout le temps. Et on finira comme la société américaine. Et nous sommes traversés par des passions en permanence. Traversés par notre animalité, l'animal en nous, qui a ses propres exigences, ses propres appels, ses propres besoins. Et il va nous falloir apprendre à maîtriser cette espèce d'équipage de chevaux fous que sont les passions humaines. Il va falloir les humaniser, nos passions. Humaniser la colère, humaniser ce qu'il y a en nous d'irascible, c'est-à-dire qui, face à ce qui résiste, se braque. Eh bien, ça veut dire apprendre à faire porter notre irascible sur des choses importantes. Par exemple, celui qui a un tempérament colérique, il faut qu'il apprenne à guider son irascible sur ce qui en vaut la peine. Et le tempérament colérique, c'est celui qui va accomplir de grandes œuvres, parce que comme il est colérique, dès que ça résiste, il fonce. Mais s'il fonce pour des bonnes raisons, pour des bons projets, ça donne des conquérants, voyez. Alors qu'au contraire, si le colérique est laissé à lui-même, s'il n'humanise pas sa passion colérique, eh bien, il va finir par faire simplement des caprices à longueur de journée et être quelqu'un d'absolument pénible pour son entourage. Parce qu'il ne veut pas dire que le conquérant ne soit pas pénible, mais... prenez des grands saints, hein, des grands saints. Voilà, les grands saints, c'est pas toujours facile à vivre autour. Hein. Mais parce que justement, il y a une espèce de puissance des passions qui sont mises au service de la vie spirituelle, mises au service de l'évangile. Et à ce moment-là, ça, tout d'un coup, toute cette force animale, elle est canalisée et puis elle est dirigée vers le bien. Donc, humaniser les passions, c'est vraiment un des très grands enjeux. Surtout aujourd'hui, notre société vit sur le règne du désir, des plaisirs, et donc les sociétés du désir et du plaisir, vous comprenez bien, c'est les sociétés où on se livre aux passions. Hein, on se laisse prendre par les passions, surtout ne t'interdis pas ton plaisir. Je l'ai bien mérité, parce que je le vaux bien, ou parce que je l'ai bien mérité. Ces sociétés-là, ces sociétés qui se laissent enfermer dans le désir, enfermer dans les satisfactions, dans la jouissance, dans les plaisirs, et le problème, c'est qu'à ce moment-là, ce sont les passions qui prennent le dessus, c'est elles qui gouvernent, et ça donne des personnes qui ne savent plus diriger leur vie. D'où le deuxième aspect, c'est que tout ce qui va contre notre ordination au bien, tout ce qui nous détourne, tout choix que nous faisons, tout acte que nous faisons et qui nous détourne, est ce qu'on appelle un péché. Péché, c'est-à-dire sortir de ce pourquoi on est fait. Aller vers un bien qui nous attire, qui est sympathique, qui a toutes les... Voilà, mais qui n'est pas ce que j'avais à faire ou ce qu'il était bon de faire, vraiment bon de faire face à Dieu. Voici cette citation de Jean-Paul II. « L'homme confirme, développe, consolide en lui-même sa ressemblance avec Dieu en accomplissant des actes moralement bons. » Cette liberté, elle va trouver un affermissement dans ce qu'on appelle les vertus. Les vertus, c'est ce qui nous rend, c'est une disposition, que l'on acquiert par l'exercice, par la répétition. Par exemple, apprendre à regarder ce dont un autre a besoin, assez rapidement, on le fait tout seul, c'est-à-dire qu'on devient serviable, et être serviable devient comme une espèce de seconde nature, c'est-à-dire qu'on n'y pense même plus, ça ne nous coûte plus d'être serviable. Alors que celui qui, au contraire, vit dans son égoïsme, le jour où il faut être serviable, ça va lui demander de très grands efforts, parce qu'il n'a pas la vertu. Et ces grâces, ces vertus, elles sont soit donc acquises, c'est le régime naturel, on les acquiert, ces vertus, en les pratiquant. Et donc dans l'éducation notamment, l'éducation n'est pas simplement faite de connaissances à acquérir, l'éducation c'est d'abord des vertus aussi à acquérir. Pour devenir homme, il faut devenir vertueux. Sinon on ne pourra pas maîtriser sa vie. C'est comme si on vous mettait une voiture entre les mains sans jamais vous avoir fait faire un peu de conduite. On sait où ça finit. Et puis, mais... ces vertus, elles ont aussi un deuxième mode, qui est que Dieu peut aussi, ce qu'on appelle, les infuser, c'est-à-dire qu'il les donne dans l'âme en vue du bien, en vue de l'amour du prochain et de Dieu. Et cela, on le voit par exemple, chez des convertis qui, tout d'un coup, changent de vie, et qui, alors qu'ils passaient leur temps esclaves des plaisirs, tout d'un coup n'y trouvent plus aucun goût, sont capables de se dégager de ça. Voilà, une vertu qu'on a, mais qu'on n'a pas acquise. Je passe sur les vices. il vaut mieux passer sur les vices. Et j'arrive à cette liberté, son sommet, c'est, nous dit le Christ, la loi, elle se résume à deux commandements, l'amour de Dieu et du prochain. Et donc cette liberté, elle va trouver son accomplissement, elle va trouver sa vraie stature humaine dans l'amour de Dieu et du prochain, qui requiert ce don de grâce qu'on appelle la charité. Dieu qui nous donne d'aimer, de l'aimer et d'aimer le prochain. L'éclairage de l'Écriture sainte, donc, je voulais citer le texte de Jean-Paul II, le Christ nous enseigne que le meilleur usage de la liberté est la charité qui se réalise dans le don et le service. C'est par une telle liberté que le Christ nous a rendus libres et qu'il nous libère toujours. La pleine vérité sur la liberté humaine est inscrite en profondeur dans le mystère de la rédemption. Vous voyez pourquoi notre tradition chrétienne doit se montrer critique à l'égard de l'évolution de notre société. La liberté telle qu'on nous la vend ne nous suffit pas. Parce que la liberté simplement de ne pas nuire, ça n'est pas encore une liberté qui est attentive au prochain. Ça n'est pas encore une liberté qui est attentive à faire grandir le prochain ou à le tirer d'une situation dramatique. Ça n'est pas une liberté qui est encore humaine, vraiment humaine au sens où Dieu l'attend de nous. Quelques mots maintenant pour conclure cet exposé et le résumer. J'ai dit que il nous fallait situer notre tradition chrétienne sur la liberté dans son contexte, et j'ai essayé de vous montrer, non pas que nos sociétés ont des conceptions forcément erronées de la liberté, mais qu'elles ont des conceptions en tout cas insuffisantes de la liberté. Insuffisantes pour leur propre subsistance. Si nous continuons à garder ces conceptions de la liberté que nous avons adoptées il y a 2-3 siècles, si nous attachons à elles sans voir qu'il y a péril parce qu'elles ne sont pas suffisantes, eh bien nos sociétés ne survivront pas. Mais ce constat, cette situation, nous oblige nous-mêmes à une certaine exigence sur notre vie, un certain regard sur notre vie, regard dans lequel eh bien, nous sommes replacés face au Christ. Le Christ m'a sauvé, m'a donné sa grâce, et il m'a donc libéré d'une emprise qui est l'emprise du péché. Et cette emprise du péché, elle est la source de tous les esclavages, c'est-à-dire de tout ce par quoi je perds ma liberté. Et donc c'est dans le Christ que nous devenons libres. C'est ce que saint Paul rappelait aux Galates. Il parlait à des chrétiens qui, pour un certain nombre, venaient de l'esclavage, donc qui savaient ce que c'était que de ne plus avoir de liberté d'agir, de se déplacer, une liberté très réduite. Il y avait une liberté dans l'esclavage, mais elle était réduite. Et donc, pour ces personnes qui avaient reçu le Christ, elles avaient découvert en réalité que même dans l'esclavage, on peut devenir libre. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés, dit saint Paul. Alors, tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Il y a, pour le chrétien qui prend conscience qu'il a reçu cette grâce au baptême, il y a une espèce de libération, parce que moi, je suis faible, mais le Christ, lui, est ma force. Et donc, je sais ce que je vaux, mais en revanche, je sais aussi ce que le Christ m'apporte. S'appuyer sur le Christ, c'est s'appuyer sur la source de la liberté. Et j'en viens à cette conclusion à partir du texte de Saint Jean, chapitre 8, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, dit le Christ, vous êtes vraiment mes disciples, c'est-à-dire si vous écoutez ce que je vous enseigne et si vous le mettez en pratique. » C'est cela, être fidèle pour un juif. Écoutez ce que dit le Christ, le mettre en pratique. « Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Notre vie chrétienne, elle doit être une recherche, surtout en ces temps où la liberté, elle est très menacée par toutes les tentations de consommation, de satisfaction des plaisirs, de course après tous les biens, toutes les richesses et tous les honneurs de ce monde, eh bien, nous sommes menacés. Et face à cette menace, il ne s'agit pas d'avoir peur, mais au contraire de s'appuyer sur la force et la puissance du Christ, avec l'aide du magistère. Le magistère, ce n'est pas un empêcheur de penser en rond, ce n'est pas quelque chose qui brime la liberté, c'est quelque chose qui vient rappeler ce qui est l'enseignement de l'Église sur la liberté, ce qui aide à devenir libre. Deuxièmement, les exemples de vie des saints. Les exemples de vie des saints sont des exemples de personnes qui ont acquis une liberté, qui se sont christifiées. Et puis, enfin, par une vie de prière, c'est-à-dire de lien avec Dieu, de charité, de service des autres, et de jeûne de cette emprise de la satisfaction et de la consommation sur notre vie. Eh bien, voilà le programme. Merci.